Vous l'avez interpellé cette semaine, le médiateur de Radio France vous répond tout de suite sur France Info. Bonjour Bruno Donnas.
Bonjour Olivia Ferrandi, bonjour à tous.
Les Paradise Papers révélés notamment grâce à la cellule d'investigation de Radio France suscitent de nombreuses réactions d'auditeurs. Il y a ceux qui applaudissent et ceux qui critiquent. Alors pour leur répondre, Bruno, aujourd'hui vous recevez Jacques Monin, directeur de la cellule d'investigation.
Jacques Monin, bonjour.
Bonjour Bruno Donnas.
Alors soyons honnêtes, beaucoup d'auditeurs vous félicitent pour ces révélations à propos des usagers, on va les appeler comme ça, hein, des usagers des paradis fiscaux, de l'évasion et de l'optimisation fiscale. Comme le dit Alain, vous montrez bien que lorsqu'on est déjà très riche, on fait tout pour l'être encore plus. Mais d'autres fatalistes estiment que tout cela ne sert à rien. Tous les présidents de la République qui se succèdent, nous écrit Cédric, annoncent la fin des paradis fiscaux, une législation plus sérieuse, mais rien ne change vraiment. Ou Élise, vous dénoncez des personnalités, mais qu'est-ce qui va changer? Alors justement, Jacques, ces révélations vont-elles servir à quelque chose?
Alors elles ont déjà servi à quelque chose, même si on peut considérer que ça ne suffit pas, mais il faut quand même préciser qu'il y a eu une enquête du fisc lituanien qui a été lancée à la suite des Paradise Papers pour enquêter sur ce centre commercial dans lequel Bono indirectement a départ. La justice indonésienne a lancé une enquête sur les enfants de l'ancien dictateur Suharto. Il y a 4 personnes qui ont également été incarcérées en Argentine. Vous savez que Wilbur Ross, le secrétaire au commerce américain, disait, jurait, main levée, qu'il n'avait plus aucun conflit d'intérêts. Il a quand même revendu les parts qu'il détenait dans l'entreprise de Navigator, voilà, qui est cette grosse entreprise qui faisait du commerce avec Sibur, notamment un gazier russe. Et puis, il y a la Commission européenne qui a annoncé qu'il lançait une enquête sur l'île de Man, qu'il n'excluait pas une procédure d'infraction. Il y a les Pays-Bas qui veulent lancer une investigation sur 4000 rescrits fiscaux, c'est-à-dire des accords particuliers qui ont été lancés. Alors tout ça, pour une part, on peut considérer que c'est de la poudre aux yeux. Aux Pays-Bas, si les rescrits sont légaux, ça donnera a priori pas grand-chose. Mais quand même, il y a des choses qui bougent. Et puis, il faut quand même rappeler qu'après les Panama Papers, le parquet financier français avait lancé une investigation, une enquête qui avait débouché sur 26 cibles, comme on les appelle, morales, des personnes physiques. Et il y a eu une personne qui a plaidé coupable assez récemment et qui a été condamnée à 2,5 millions d'euros d'amende plus un an de prison avec sursis. Donc ça n'est pas rien. Après, effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a un véritable débat politique qui a été lancé, que les politiques se soient appropriés le sujet pour poser la question de la régulation. Est-ce qu'il faut revoir toutes ces régulations? Là-dessus, c'est vrai qu'on est un peu en deçà de ce qu'on pourrait espérer.
D'autant qu'il faut quand même rappeler que beaucoup de ces pratiques sont légales.
Alors légales et pas légales, c'est-à-dire vous avez 3 niveaux, hein, on va le rappeler rapidement, mais vous avez effectivement le niveau de la fraude fiscale, relativement peu présent dans les Paradise Papers. Vous avez le niveau de ce qu'on appelle l'abus de droit, c'est-à-dire en gros on utilise une législation mais on la tord un peu pour arriver à en faire autre chose que ce à quoi elle est destinée. Ça c'est la TVA à l'île de Man, où à travers des sociétés on vous fait croire qu'on a une exploitation commerciale mais on l'a pas, mais ça a une apparence de légalité. Et puis vous avez effectivement Total par exemple qui rapatrie de l'argent, qui ne paye pas d'impôts. Ça, c'est parfaitement légal. Mais il y a ces 3 niveaux. D'où cette question, effectivement. Est-ce que la vraie conséquence, ce ne serait pas de s'interroger sur le niveau de légalité aujourd'hui qui n'est plus adapté à une situation qui peut être considérée comme injuste?
Alors, plusieurs auditeurs estiment que vous avez beaucoup parlé des étrangers, mais peu des Français. Pour Jean-Noël, par exemple, pour éviter de parler des Français, on parle de la reine d'Angleterre, d'un proche de Justin Trudeau, de sportifs étrangers, mais peu de noms d'exilés fiscaux français sont sortis.
Alors, attention, dire ça, ça laisserait entendre qu'on ne veut pas parler des Français. Je vois pas pourquoi on nous ferait ce procès d'intention. En tout cas, quand on enquête sur tout, français ou pas français, c'est pas la question. Ben non, c'est pas la question. Alors après, il y a des éléments de réponse. C'est que, un, il faut savoir que cette enquête, elle était coordonnée par l'ICIJ, qui est un consortium de journalistes qui est basé à Washington. Donc, le maître des horloges et le calendrier étaient décidés par l'ICIJ. Et évidemment, qu'est-ce qui était mis en avant au début, en tout cas, c'était les grands sujets internationaux. Trump, Trudeau en l'occurrence, premier scandale au Canada. Et puis la reine d'Angleterre. Donc on a commencé, c'est vrai, par l'international. Mais ça, c'est lié à cette organisation qui est internationale. Ensuite, des Français, il y en a quand même eu. Bernard Arnault, que je sache, il est français. Jean-Jacques Hanau, que je sache, il est français. Philippe Stark, il est français. Total, c'est une entreprise, une multinationale, mais bon, qui est quand même française. Engie, c'est pas... Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis, on rappelle quand même que toutes ces fuites viennent d'un cabinet qui s'appelle Appleby, qui est un cabinet anglo-saxon basé aux Bermudes. Et donc, ce cabinet n'a pas non plus tous les clients français qui sont répartis sans doute dans d'autres cabinets qui ont plus pignon sur rue en France, d'où l'explication aussi de cette surreprésentation peut-être de clients internationaux.
Et en parlant de français tout à l'heure et des suites, le réalisateur Jean-Jacques Hano, par exemple, a régularisé sa situation après cette enquête.
Oui, alors j'en ai parlé, on l'a entendu d'ailleurs sur France Info hier. Le parquet financier de Paris ne l'entend pas de cette oreille. C'est-à-dire qu'il considère qu'un repenti, c'est quelqu'un qui se manifeste de lui-même et de sa propre initiative. Là, on ne peut pas considérer que c'est véritablement de sa propre initiative, puisque c'est sous la pression de la presse qui menaçait de révéler ses avoirs à l'étranger.
Si vous ne l'aviez pas sorti, il n'aurait peut-être pas fait cette démarche.
J'en suis désolé, mais c'est la réalité, oui.
Alors, pour d'autres auditeurs, vous avez dénoncé des personnalités, mais Gilles vous interroge pourquoi n'avoir pas braqué les projecteurs sur ces cabinets d'avocats spécialisés qui vendent ce genre d'arrangement. Pensez-vous vraiment qu'un sportif comme Lewis Hamilton soit au courant de toutes les opérations qui touchent sa fortune?
Alors, deux choses. D'abord, on a quand même largement expliqué toute cette opération partait des fuites d'un cabinet qui s'appelle Appleby, je vous l'ai dit. Ce cabinet, c'est un cabinet d'avocats et on a parlé des intermédiaires. Par ailleurs, il faut savoir que la Commission européenne prépare une directive justement qui imposera à ces intermédiaires de déclarer leur montage. Donc le sujet est quand même sur la table. Après Hamilton, oui, il est tout à fait possible que ses avocats lui aient dit « mais tout ça est parfaitement légal, vous pouvez, en utilisant ce schéma-là, récupérer la TVA, il n'y aura pas de souci », puisque beaucoup apparemment le font. Donc c'est possible. Maintenant, regardons quand même les faits. Hamilton, c'est quelqu'un qui, de fait, cherche à échapper à l'impôt. Pourquoi il est allé habiter en Suisse? Pourquoi ensuite il a déménagé à Monaco? Pourquoi il va créer sa propre société personnelle aux îles Vierges britanniques pour ensuite passer par l'île de Man? Donc il y a un moment,
oui, quand
il
n'est
pas idiot. Non. Il n'est pas idiot. Et par ailleurs, en dernier ressort, c'est le propriétaire qui achète son avion. Donc c'est lui qui est responsable de son achat. Et quand on voit qu'il renouvelle l'opération pour un camping-car pour économiser 350 000 euros de TVA, on peut s'interroger sur effectivement l'ignorance qu'il avait quand même du système qu'il utilisait.
Enfin, toutes ces révélations sont le fruit d'une collaboration journalistique mondiale, vous en parliez. Alors, est-ce le seul moyen aujourd'hui de pouvoir révéler ces scandales financiers ou fiscaux d'une telle importance?
Malheureusement, oui, puisqu'on constate que cette évasion fiscale se fait à l'échelle mondiale et internationale, donc il faut une réponse adaptée, donc une enquête mondiale et internationale, c'est ce qui s'est passé. Par ailleurs, la somme de documents à traiter est tellement énorme qu'un média seul ne parviendrait pas à la traiter, et elle concerne tellement de pays que ça n'aurait pas beaucoup de sens non plus. Et puis, on a aussi affaire là à des multinationales qui ont des moyens, on parlait des cabinets d'avocats énormes. Un média seul s'attaquant à une grosse multinationale qui a une batterie d'avocats et de l'argent, ce serait compliqué pour lui. Quand là, vous révélez la même chose dans 67 pays simultanément et dans 96 médias, sachant que d'autres le reprennent, c'est beaucoup plus compliqué d'attaquer 96 médias que d'en attaquer un.
Merci Jacques Monin pour toutes ces précisions, directeur du service enquête investigation de Radio France.
Et à la semaine prochaine, Bruno Denas, médiateur pour radiofrance.fr, c'est l'adresse pour vous poser vos questions. Il y a bien sûr aussi toujours vos comptes Facebook et Twitter.